Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Dans Luc chapitre 5, on va lire le passage de 1 à 11. Il est vraiment ouvert.
Test 1, 2.
Donc, Luc chapitre 5, on va lire les versets 1 à 11, puis on va commencer avec un mot de prière. Donc, Luc chapitre 5, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Au verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, leur associé de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Prions. Mon Dieu, on prie que tu puisses parler à nos cœurs ce matin par ce passage. Seigneur, que l'appel dans la vie de Pierre, et puis comment tu as amené Pierre à répondre à cet appel, que ces événements puissent nous encourager, puis aussi même nous inspirer, mon Dieu. On te remet ce message entre tes mains ce matin. Amen. Donc, on parle de... Je pense que je vais avoir besoin de... Ah, non, ça a marché. C'est moi qui l'ai marché, oui? En tout cas, un ou l'autre. Donc, avançons en pleine eau. Donc, Jésus a enseigné au bord du lac, et puis les disciples étaient là. Les gens écoutaient Jésus. Il y avait tellement de monde que Jésus a demandé à Pierre d'utiliser son bateau au bord du lac pour pouvoir prêcher à plus de monde. Et puis, après avoir... prêcher ce long message-là. Jésus va dire quelque chose à Pierre. Il va lui dire, « Avançons en pleine eau. » Et puis, on veut penser à ce principe-là un peu ce matin. Et puis, l'autre chose que Jésus va dire à Pierre. Mais la première ici, c'était d'avancer en pleine eau pour aller pêcher. Et puis, évidemment, dans les circonstances, Pierre était un peu hésitant. Pourquoi? Parce qu'il avait travaillé toute la nuit dans la région et puis il n'avait rien attrapé. Donc, pour lui, ça faisait comme pas vraiment de sens. Là. Les poissons, ils étaient plus là. Il n'y en avait pas. Il était fatigué aussi, j'imagine. Hein? Tu as travaillé toute la nuit. Là, tu laves tes filets le matin. Bon, bien, il y a un prêcheur qui vient. Là, il demande ton bateau pour prêcher. Bon, bien, tu ne peux pas dire non au prêcheur quand même. En plus, c'est Jésus. Fait que oui, OK. Là, Jésus, peut-être qu'il prêchait longtemps aussi. Fait que là, c'est comme, il a travaillé toute la nuit. La matinée a été bonne, mais là, c'est comme c'est le temps d'aller se coucher. Là. Et puis là, Jésus, il dit, on retourne en pleine eau. Et puis là, tu vas jeter tes filets pour une pêche. Et puis Pierre ne veut pas offenser Jésus. Il ne dit pas non, mais il dit, écoute, ça ne marchera pas. Là, mais sur ta parole, par contre, on va retourner. Donc, un premier principe ici, c'est que Pierre, il prend quand même ses chances avec Jésus. Jésus lui dit, va, fais ça. Bien, il s'avance avec lui. Et puis, quelque chose par rapport à la foi qui est intéressant, c'est que, bon, là, je pense qu'il va falloir que quelqu'un... Bon. C'est que la foi, elle est raisonnable dans la mesure où on raisonne avec Dieu. Parce que quand on lit les Écritures, Dieu nous donne des commandements, Dieu nous montre ses plans, on voit comment les personnes de foi ont vécu dans le passé. Et puis là, la parole nous interpelle, nous aussi, pour lui obéir. Et puis dans la situation de Pierre, d'aller à un endroit où il n'y aura pas de résultat, ça fait comme pas de sens. Mais par contre, étant donné que c'est Jésus qui parle, bien, ça fait du sens. Et puis, comme ça a été mentionné, on était dans un camp pendant 2 semaines. Et puis, le défi, c'est d'être avec des jeunes et puis de pouvoir les encourager dans leur foi, de pouvoir les fortifier, de leur dire que oui, si vous mettez votre confiance dans la Bible, dans Jésus, si vous bâtissez vos vies sur cette fondation-là, vous faites la bonne chose. Et puis, c'est un défi parce qu'ils vivent dans un monde où est-ce que le monde leur dit non, c'est pas la bonne chose à faire. Les valeurs bibliques, ce n'est pas ça la vérité. Ce n'est pas les bonnes valeurs. Le monde leur parle de tolérance. Le monde leur dit que la foi, c'est quelque chose qui est comme relatif. C'est ton chemin, c'est personnel. Mais nous autres, on leur dit non, ce n'est pas comme ça. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus, lui, parle en termes d'absolu. Puis on vit dans un monde où est-ce que tout le monde aimerait ça que ça soit relatif. À quelque chose qu'on entend des fois, c'est si quelque chose est bon pour toi, c'est bon pour toi, puis tu as raison. Puis quelqu'un d'autre, toi tu crois différemment, mais toi aussi tu as raison. On dirait qu'on vit dans un monde où est-ce que tout le monde va avoir raison. Et puis c'est ça que Ésaïe avait dit dans le chapitre 53, tout le monde suit sa propre voie. Puis on aimerait ça tous avoir raison. On aimerait ça pouvoir vivre nos vies à notre manière, puis en fin de compte que tout aille bien. Mais ça, c'est le résultat de vivre dans le péché, le résultat de vivre notre vie séparée de Dieu, ce qui a commencé bien, dans le jardin d'Éden. Hein. Le diable, il leur a dit, si vous mangez de cet arbre-là, vous allez être comme Dieu, mais seulement en partie, tellement seulement en partie, parce que avec l'indépendance face à Dieu est venu le péché, et puis la mort. Donc, pour Pierre, ça ne faisait pas vraiment de sens d'aller en pleine eau, sauf qu'il a l'intelligence de reconnaître que Jésus, c'est plus qu'un homme, que Jésus a un message, et puis il est interpellé quand même dans la foi. Donc, sur ta parole, Jésus, je vais y aller. Et puis, il met en pratique, bien, si vous pouvez tourner le prochain passage ici, Proverbe 3:5, il dit, « Ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Donc, quand on prie, quand on fait des pas de foi, bien, il faut s'appuyer sur Dieu. Et puis, je sais que vous êtes dans une situation où vous allez avoir beaucoup de pas de foi à faire. Peut-être que vous en avez déjà dans vos vies. Bon, on en a tous dans nos vies. Mais en tant qu'Église, vous avez des grands défis devant vous, des grandes questions. J'en connais juste en partie. Mais une chose est fondamentale, c'est que si on s'embarque dans quelque chose dans la foi, bien, il faut que ça soit par la foi. Parce que le plan de Dieu, ça marche vraiment avec Dieu. Pierre, quand il va partir en bateau, Il dit, oui, sur ta parole, Jésus, je vais jeter les filets, je vais partir en haute mer, mais Jésus est là dans le bateau, et puis c'est ce qui fait que ça va marcher. Et puis en tant qu'Église, en tant que personne qui servons Dieu, moi aussi, quand je pense à un nouveau missionnaire d'évangélisation, bien, la seule manière que ça va vraiment marcher, c'est avec Dieu. Ça ne marche pas autrement. Et puis c'est ça que ça veut dire de s'avancer en plein eau, de s'avancer, bien, surtout dans le contexte, de s'avancer dans quelque chose qui nous dépasse, de s'avancer dans quelque chose qui fait que sans Jésus, ça ne marchera pas. Et puis, à chaque fois que je vais dans un camp, à chaque fois que je me présente devant un groupe de jeunes, à chaque fois que je me prépare, je me retrouve toujours au même point dans mon cœur, avec une certaine crainte. La crainte, c'est qu'à moins que Dieu soit avec moi, à moins que Dieu parle au cœur de ces jeunes-là, bien, il n'y a rien qui va se passer. Et puis, comme par exemple, un camp de 2 semaines, tu commences au début, et puis on fait un inventaire des personnes qui sont là, les moniteurs, on a des rencontres tous les matins, et puis là, tu sais que, bon, mais il y en a, eux autres, ils viennent de famille chrétienne, ça va bien, eux autres, ils viennent de famille chrétienne, puis ça va mal, eux autres, ils ne viennent pas de famille chrétienne, puis ça va bien, eux autres, c'est la première fois qu'ils sont au camp, fait que tu as toute une panoplie de personnes qui sont là, puis là, tu te dis, waouh! Oui, je vais leur dire des choses, mais finalement, alors que la semaine progresse, quand les moniteurs disent, bon, mais telle personne était venue, comme par exemple, il y a un jeune, c'était pas la première fois qu'il venait au camp, il disait à son moniteur, et dans le fond, le camp ici, là, ça serait tellement le fun si le camp, il serait exactement comme qui est là, mais sans la partie spirituelle. Tu sais, il a dit, ouais, ça c'est moi la partie un peu spirituelle, là. Mais il y a d'autres choses que moi, parce que les moniteurs aussi ont des méditations. Mais des fois, il y en a qui ils disent ça au départ. Et puis là, tu dis, OK, est-ce que moi, je peux les convaincre de changer d'idée? Oui et non. Mais on prie pour ces gens-là, on prêche, et puis finalement, les cœurs changent. Et puis cette personne-là, entre autres, a dit après quelques jours, bien, dans le fond, je suis content de cette partie-là. Et puis ça, c'est notre espoir que Dieu agit. Parce que sans ça, on s'embarque dans quelque chose qui ne marchera pas. Et puis donc, Pierre s'embarque, il s'avance en pleine eau. Et puis, on peut passer à la prochaine diapositive. Et puis, ça nous dit aussi un principe, avec le prochain verset, s'il vous plaît. Le principe, comme Moïse a dit à Dieu, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Hein? » Ça s'applique pour quelqu'un qui pense de changer de bâtiment ou de changer. Là. Alors, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de la prière. On a tellement besoin d'entendre de Dieu. On a tellement besoin d'être sûr que ce qu'on fait, la prochaine étape, bien, on veut que ce soit Dieu. On veut que ce soit Dieu qui nous dise, oui, c'est ça que je veux que tu fasses. Et puis, pour un exemple personnel, des fois, Dieu, il ne parle pas si vite que ça. Nous autres, des fois, on a un agenda. On aurait besoin que Dieu nous donne la réponse comme maintenant. Right? Des fois, on aimerait ça savoir maintenant. Et puis, des fois, Dieu parle maintenant. Mais si je regarde mon exemple personnel, mais quand j'ai accepté le Seigneur, bien, moi, j'avais le désir parce que dans ce temps-là, j'avais commencé à travailler dans le monde du spectacle. J'ai gagné ma vie pauvrement avec ça, mais en tout cas, j'espérais faire plus d'argent un jour, mais ça commençait là. Et puis, quand je suis venu au Seigneur, bien, j'ai dit au Seigneur, moi, j'ai un bon plan. Le plan, là, c'est que je vais faire des spectacles, je vais avoir un message, je vais être sûr que mon message est comme correct, tout est clean, là, je ne dirais pas des folies. Là. Et puis, à un moment donné, là, dans mon spectacle, bien, je vais t'inclure là-dedans, je vais te dire de quoi que je crois en Jésus, etc. Puis moi, j'ai demandé à Dieu, c'est comme, amen. Et puis, j'attendais un peu. Puis, à un moment donné, dans mon cœur, je n'avais pas de paix. Puis, je pleurais, puis je priais. Et puis, à un moment donné, le Seigneur a dit, non, ce n'est pas ça que je veux pour toi maintenant. Et puis, pour moi, c'était clair que Dieu ne voulait pas que je fasse que j'aille dans cette direction-là. Et puis, j'ai quand même, éventuellement, avec les années, j'ai utilisé les arts créatifs dans l'évangélisation. Mais pour avoir comme un ministère, vraiment faire ça à temps plein, bien, il a fallu que différentes circonstances fassent que, aussi, l'Église, maintenant, après avoir été pasteur pendant 25 ans ou quelque chose comme ça, c'était le temps maintenant de faire d'autres choses. Côté familial, ça amène certains défis. Et puis, en même temps, le désir que j'avais. Puis finalement, bon, maintenant, c'était le temps. Mais là, on parle de, je ne me rappelle pas, je n'ai pas calculé, mais je pense que c'est comme 30 ans plus tard. Ce que moi, je voulais vraiment faire, je demandais à Dieu, est-ce que c'est possible? Bien, 30 ans plus tard, ça l'arrive. Mais par contre, ça l'arrive, puis j'en suis content. Puis je me réconforte que Moïse, ça y a pris 40. C'est 40 ans après son désir de partir en affaires avec Dieu dans son plan. Puis finalement, ça s'est passé par après. Mais l'idée ici, ce n'est pas de décourager personne par rapport au temps que Dieu nous fait attendre, mais l'importance du fait que c'est quand Dieu donne sa bénédiction sur quelque chose qu'on veut puis qu'on peut aller de l'avant. Et puis ce passage-là ici, puis cet énoncé-là de Jésus avance en plein eau, bien, ça m'a interpellé à un moment où j'étais comme prêt à prendre la décision et puis j'avais besoin d'être comme rassuré. J'avais besoin de savoir que, OK, c'était correct maintenant de faire ce pas-là. Et puis je pense que dans nos vies, souvent le Seigneur va nous interpeller puis on a besoin de faire un pas en avant, mais avec seulement l'assurance que Dieu va être avec nous, puis Dieu va nous soutenir et puis Dieu va nous aider. Souvent, c'est comme ça. Pour Pierre, c'était de s'avancer dans un endroit où est-ce qu'il n'y avait pas eu de succès, mais là, il va y aller avec le Seigneur parce que le Seigneur veut qu'il retourne à cet endroit-là. Je pensais aussi peut-être pour quelqu'un, ça pourrait être un appel, mais là, c'est le temps que tu te fasses baptiser. Là, à quel rapport? Bien, c'est sûr, avance-toi en pleine eau. D'habitude, on baptise sous l'eau. Mais ça, c'est un pas de foi parce que quelqu'un qui n'est pas baptisé, puis peut-être qu'il y en a qui ne sont pas baptisés ici, là, mais quelqu'un qui n'est pas baptisé, bien, il y a quelque chose qui manque à sa vie chrétienne parce que c'est une étape d'obéissance importante. Le baptême, ça ne sauve pas, mais la Bible dit que ceux qui croient et sont baptisés vont être sauvés parce que c'est l'étape normale. Tu acceptes le Seigneur, tu es sauvé, mais après ça, tu vas témoigner de ton salut devant ton assemblée, devant le monde, par les eaux du baptême. Et puis, c'est un pas de foi pour tout le monde. Et puis, peut-être pour d'autres personnes, bien, pour moi, comme je vous ai dit, ça a été de dire, bon, bien, je me lance, j'y vais, on part. Et puis, par la foi, j'ai donné ma démission. J'ai dit, je vous donne 3 mois, dans 3 mois, je quitte. Et puis, je me suis lancé là-dedans sans sécurité financière, sans engagement, sans rien. Mais on était prêt à le faire pour différentes raisons. C'était le temps de le faire. Et puis, je pense que vous avez déjà fait des pas de foi comme ça dans votre passé. J'en ai fait aussi, mais juste quelques idées ici. Peut-être pour quelqu'un, c'est de repenser, de faire à nouveau quelque chose que vous aviez à cœur à un moment donné de faire avec Dieu. Parce que Dieu donne des rêves, Dieu donne des visions, Dieu donne des désirs dans nos cœurs. Et puis des fois, on les met de côté pour différentes raisons. Et puis des fois, c'est important de ne pas juste laisser passer le temps, parce que le temps, ça passe. Et puis à un moment donné, le monde, il se retrouve vieux, puis à un moment donné, on meurt. Puis la Bible nous dit « rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». On vit dans une société où est-ce que le monde vive et puis il pense en fonction encore combien d'années avant la retraite. Tu sais, combien d'années? Il me reste 5 ans, il me reste 3 ans, il me reste 10 ans, il me reste 15 ans. Là, je pense que le monde n'y passe pas si loin que ça. Là. Mais pour ceux qui sont dans la cinquantaine ou un peu plus, malheureusement, on pense comme ça. Puis Dieu dit, non, pense pas comme ça. Combien de temps encore? Parce que tu ne sais même pas qu'est-ce que ta vie va être demain. Puis là, moi, je vais faire des plans d'ici 10 ans, puis après ça, c'est la retraite, puis après quoi, on meurt, c'est tout. Donc, Dieu veut qu'on pense en termes, OK, s'il a mis un désir dans notre cœur, quelque chose de plus, quelque chose qui dépasse le temps, quelque chose qui dépasse la vie commune que tout le monde vit, bien, avance en plein eau, mais pour toi, pour vous, ça peut être de, oui, ma vie chrétienne pourrait être comme que je l'avais imaginé. Quelque chose de spécial, quelque chose d'exceptionnel. Peut-être pour quelqu'un, c'est peut-être de commencer à s'impliquer plus dans l'Église. Hein? Parce que d'avancer en plein eau, là, ça veut dire que, et moi, à un moment donné, je me suis retrouvé, là, parce qu'on était en tout 15 ans en Hongrie, puis maintenant, on avait commencé une église quelque part aux limites de Budapest. Et puis, on avait un petit groupe. On était peut-être à ce moment-là 25, peut-être 25-30. Et puis là, dans le gros, là, de la manière que ça se passait, là, on arrivait là, j'installais le système de son. J'allais faire une coupe de chant avec les guitares pour la louange. J'allais prendre l'offrande, j'allais la dépenser. Puis après ça, j'allais prêcher, puis j'allais fermer la place. Puis on faisait ça avec notre famille. Puis là, à un moment donné, j'ai dit à l'église, « Il semble que ce serait le fun si quelqu'un pourrait m'aider pour installer le son, parce qu'en plus, à un moment donné, ça ne marchait pas. » Puis là, finalement, après un an, c'était une nouvelle église, le monde a commencé à s'impliquer. Et puis quelqu'un s'est occupé du son, quelqu'un s'est occupé des finances, quelqu'un s'est occupé de la musique. Et puis là, les gens ont commencé à prendre leur place. Et puis pour nous autres aussi, c'est important de savoir dans notre cœur, oui, on est à notre place. On fait ce que Dieu veut qu'on fasse. Et puis si, des fois, il y a une personne qui était responsable, qui est partie, puis là, il y a des choses, bon, mais qui va faire ça? Bien là, on peut se dire, bon, mais peut-être moi, je pourrais le faire. Puis on peut tous faire plus. Mais évidemment, on cherche la volonté de Dieu. Mais le diable, lui, il nous donne des craintes. Puis le diable, ce n'est pas lui qui va nous convaincre qu'on est capable de le faire. Moi, la première fois là, que j'ai fait un ministère avec des enfants, là, je me suis dit, là, c'est vraiment pas pour moi. Là. Je me rappelle, là, j'étais assis dans un autobus, puis des enfants partout, bruyants. Et puis là, parce que moi, dans ma vie, c'était un monde plus d'adultes. Puis là, je vois ça, des enfants. Hey, c'est fly ici. Moi, je suis plus jeune d'une famille de 5, famille de 6, donc moi, c'était toujours moi le bébé. L'enfant, c'était moi. Il n'y avait pas d'autres enfants. Mes frères et sœurs, là, ils ont eu des enfants plus tard. Mais éventuellement, j'ai fait des choses que ce n'était pas naturel. Puis maintenant, souvent même, j'ai un ministère avec des enfants qui n'est pas quelque chose que j'aurais fait naturellement. Peut-être quelqu'un, ça pourrait être de penser à prendre un cours à l'école biblique ou faire une mission à court terme ou de penser, ouais, le festival, ouais, Jean-Sébastien a mentionné le festival. Ben moi, je vais faire de quoi, là? Je vais aller les rencontrer, là. Pourquoi pas? Parce que c'est ça, l'Église. L'Église, c'est les membres qui entendent de Dieu et puis qui disent, moi, je vais mettre au service des autres le don que j'ai reçu et puis avec l'aide de Dieu, on peut se retrouver à faire des choses qu'on n'aurait pas fait autrement. On peut continuer avec le prochain slide. Donc, la première chose qu'il devait faire, c'était de se rendre en pleine eau. Puis après ça, il devait faire une deuxième chose, c'était de jeter vos filets pour pêcher. Donc, on voit ici quand même la foi de Pierre, dans le sens qu'il est allé en pleine eau, puis même jeter les filets. Parce que selon son entendement de pêcheur, ben il n'y a pas de poisson, mais on va jeter les filets pareil. C'est un peu comme l'obéissance. L'obéissance qui fait que, un moment donné, tu frappes à une porte. L'obéissance qui fait qu'on témoigne de Jésus à des gens. Puis des fois, on peut se dire, bon, mais pourquoi leur témoigner? Ils vont le rejeter de toute façon. Mais ça, ce n'est pas comme ça que Dieu pense. Hein, la Bible dit, jette ton pain sur les eaux. On sème, on prend des décisions. Et puis, on s'attend que le Seigneur aussi agit au travers de ça. Donc, ils ont jeté leur filet. Et puis, il est arrivé un miracle, évidemment. Il y avait une pêche miraculeuse. Mais au lieu de se réjouir puis de commencer à être vraiment content, ils ont eu peur. Et puis, on peut voir dans la prochaine phrase, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, retire-toi de moi. » Parce que je suis un homme pécheur. On peut. Désolé, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas centré, c'est sûrement ma faute. Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Maintenant, qu'est-ce que Pierre va avoir à apprendre? Il va avoir à apprendre qu'il ne doit pas regarder à lui-même. Parce que oui, il est un homme pécheur, mais on est tous des personnes comme ça. On est tous des gens que dans notre passé, on a des échecs. On est tous des personnes qui, dans notre passé, on peut avoir des regrets et malheureusement, je pense qu'on en a tous des fois quand on y pense. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On ne doit pas s'arrêter là parce que Dieu est celui qui a envoyé son Fils et puis lui, il pardonne. Lui, il nous donne cette grâce-là de pouvoir marcher avec un Dieu qui est saint, même si nous, on ne l'est pas par nature. Et puis, Pierre va quand même comprendre ça. Puis, on voit dans la prochaine phrase ici que Dieu nous utilise malgré ce que nous sommes. Et puis, c'est ce que Dieu va faire aussi avec nous. On peut aller à la prochaine diapositive. Donc, ils ont quand même... Ils ont vraiment bien répondu à... Pierre et ses amis ont bien répondu à l'appel de Dieu, parce que ce qui est arrivé dans la situation, c'est qu'ils ont tout laissé et puis ils ont décidé de le suivre. Donc, même si dans leur cœur, ils avaient des questions, même si dans leur cœur, ils avaient un peu comme d'incrédulité, ils ont quand même fait le prochain pas. Ils sont allés de l'avant, ils ont fait le prochain pas, ils sont allés en pleine eau, ils ont jeté le filet. Et puis, ils n'étaient pas dans leur émotion comme renversés par une foi incroyable, mais ils ont quand même obéi à Dieu. Et puis, Dieu agit. On peut aller à la prochaine diapositive. Dieu a agi. Et puis, c'est là comme que j'ai mentionné qu'ils ont, tout laissé. Et puis, ils ont décidé de suivre le Seigneur. On peut aller à la prochaine phrase. La vie chrétienne dans le Nouveau Testament avait quelque chose de radical. Et puis Pierre, il n'a jamais regretté sa décision de laisser ses filets et puis d'aller avec le Seigneur pour devenir un pêcheur d'hommes. Et puis je pense que Dieu nous appelle tous à prendre ce genre de décision-là. De tout laisser et de le suivre, oui, si c'est ce que le Seigneur veut, mais que dans notre cœur, on puisse mettre le Seigneur en premier. Et puis chercher à faire sa volonté, chercher à la comprendre. Et puis pour terminer, j'aimerais vous partager une histoire brève. C'est dans la prochaine diapositive. C'est l'histoire de William Borden. Et puis ça, c'était un homme, c'est la prochaine. C'était un homme, il vient d'une famille, on peut continuer. OK, on va aller tout de suite à la prochaine, s'il vous plaît. Donc, William Borden, est-ce que vous connaissez le lait Borden? Je pense que c'est dans le lait Carnation, des fois. Donc, aux États-Unis, lui, c'était un homme qui grandit dans une famille très riche. C'était un empire laitier aux États-Unis. Donc, il était comme héritier de cette fortune-là. Et puis, à l'âge de 16 ans, ses parents lui ont donné un voyage à travers le monde. Hein? C'est un beau cadeau. Et puis, il n'est pas allé tout seul. Il est allé avec un prédicateur, je pense, à la retraite. Et puis là, ils ont fait le tour du monde ensemble. Et puis c'est là que William, ses yeux se sont ouverts à la réalité du monde sans le Seigneur. Puis là, il a commencé à avoir un fardeau pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et puis quand il est revenu de ce long voyage-là, il a continué ses études. Puis dans son cœur, il a entendu l'appel d'amener éventuellement l'Évangile en Chine parmi des populations musulmanes. C'était ça qu'il avait à cœur. Puis après ses études, finalement, il va se rendre au Caire. Là, il est à l'âge de 26 ans. Il va se rendre au Caire pour apprendre l'arabe, parce que là, il a eu sa formation biblique. Maintenant, il va apprendre l'arabe. Et puis après ça, il va se diriger vers la Chine. Sauf que 4 mois après son départ des États-Unis, il va mourir. Et puis... Puis on se pose des fois des questions hein, quand des choses comme ça arrivent. On se rend compte qu'on n'est tellement pas en contrôle des décisions des autres. On n'est pas en contrôle non plus de ce que Dieu fait. Hein, Pierre a vu ça. Pierre il a jeté les filets, puis ce n'était pas lui qui était en contrôle de ce qui allait se passer. Puis finalement, Dieu a amené les poissons et puis il y a eu une pêche miraculeuse. Quand quelque chose comme ça se passe dans la vie d'un homme... qui est, on pourrait dire, un homme de Dieu, un homme de foi, on peut toujours se poser la question « pourquoi? » Et puis à ce moment-là, des fois, il y a des gens qui peuvent devenir amers, qui peuvent devenir confus. Puis des fois, quand il y a des choses bizarres ou difficiles à accepter se passent, mais ça peut être une excuse des fois pour certaines personnes de se retirer aussi, d'aller dans la dépression, d'aller dans la tristesse, puis de demander à Dieu « pourquoi? » Sauf que dans cette direction-là, il n'y a pas d'issue. Ça, c'est une route sans issue. Parce que le contraire de ça, c'est la foi. Parce que Deutéronome 29, je pense que c'est 29, nous dit « Les choses secrètes appartiennent à l'Éternel. » Et puis, on doit accepter dans la vie qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, évidemment qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, mais ça ne doit pas nous empêcher de mettre notre confiance en Dieu et puis de l'aimer et puis de l'adorer. Mais j'aimerais qu'on puisse voir aussi le témoignage de cet homme-là parce que après sa mort, ils ont ramené le corps aux États-Unis puis ses parents ont retrouvé sa Bible. Puis dans sa Bible, il y avait trois phrases très courtes que ses parents ont pu lire. On peut voir la première. La première qu'il avait inscrite dans sa Bible, c'est « pas de réserve ». Et puis ça, il l'a inscrite à la date où il a décidé de justement ne pas prendre de position dans l'empire familial puis de dire « moi, avec ma vie, je vais devenir un missionnaire ». C'est ça qu'il a écrit dans sa Bible, « pas de réserve ». Et puis peu longtemps après, il a écrit dans sa Bible « pas de retraite », en voulant dire « je ne retourne pas en arrière ». Peu importe, là, c'est comme « oui, je tourne le dos à une vie de richesse, une vie de puissance, une vie d'aise, mais je m'en vais, j'ai une autre direction vers laquelle je m'en vais dans ma vie, puis il n'y a pas de retraite ». Et puis le 21 mars, ça va être 2 semaines avant sa mort, il a écrit « pas de regret ». Et puis ça, c'est l'héritage un peu que cet homme-là nous donne. Un homme qui a décidé de vivre une vie radicale avec Dieu. Un homme qui a aussi entendu de Dieu, mais qui a aussi laissé Dieu lui ouvrir ses yeux. Et puis, pour lui, ce n'était pas une option. Ce n'était pas une option d'essayer de tout faire, de faire sa volonté, puis de faire la volonté de Dieu. Mais son option, c'était de vraiment se concentrer sur la volonté de Dieu, sans réserve, sans retraite, et puis aussi sans regret. Parce que quand on fait des pas de foi, des fois, on peut perdre. On a entendu ce matin que quand on vient à l'église ou quand on donne dans l'offrande, on aurait pu faire d'autres choses avec notre temps ou avec notre argent. Mais si on le fait par la foi, on n'aura pas de regret. Puis il ne faut pas avoir de regret non plus, là. Il ne faut pas avoir de regret avec ce qu'on fait avec nos vies. Puis je pensais à cet exemple-là, puis je vais terminer avec ça avant de vous présenter une leçon d'objet. Puis peut-être que vous avez entendu cette histoire-là parce qu'elle a été racontée plusieurs fois. L'histoire d'un missionnaire qui revenait aux États-Unis après avoir passé une vie en Afrique en mission. Vous la connaissez l'histoire? Tu l'as racontée? Tu l'as racontée plusieurs fois? On la raconte une autre fois. À toutes les 5 ans. Mais là, moi, c'est la première fois que je suis ici, fait que c'est ça. Donc, cet homme-là est un missionnaire. C'est une histoire vraie. Et, en temps normal, quand on dit que c'est une histoire, c'est vrai. Là, on ne va pas mentir intentionnellement, évidemment. Mais cet homme-là avait passé sa vie en mission en Afrique. Puis là, il s'en revenait en bateau. Et puis sur le bateau, il y avait le président des États-Unis à l'époque, Teddy Roosevelt. Puis lui qui était connu comme un homme qui avait aimé beaucoup la chasse. Et puis lui, en même temps qu'il revenait d'Afrique, il était aussi sur le bateau parce qu'il était allé dans un safari en Afrique. Fait qu'imaginez, là, il ramenait ses proies qu'il avait eues, puis là, il allait poser pour la télévision, là, mais prendre des photos, là, le chasseur qui revient, qui a vraiment fait, qui a eu une belle vacance. Donc, sur le même bateau, tu as le missionnaire, maintenant âgé, qui a comme pas vraiment d'argent, qui a des vêtements plutôt sales et poussiéreux, qui est sur le bateau, qui revient aux États-Unis, et puis tu as le président qui revient, puis quand ils arrivent à New York, évidemment, il y a toute une fanfare qui attend, pas le missionnaire, qui attendent le président avec les journalistes, etc. Tout le monde est intéressé à ce que le président est allé faire dans son safari. Et puis le missionnaire, à ce moment-là, il a pensé dans son cœur, avec tristesse, il a dit, moi je reviens à la maison, là, puis il n'y a comme personne qui m'attend. Puis il trouvait ça moche un peu. T'sais, lui, il a donné sa vie à Dieu, il a vécu en Afrique, là, il revient, il n'y a pas de rire, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de fonds de pension. Peut-être qu'il va vivre pauvre jusqu'à la fin de ses jours. Là. Puis là, il y a eu comme un pincement de cœur. Et puis Dieu a parlé à son cœur, puis lui a dit, « Mais tu n'es pas encore à la maison. » Mais ça, ce n'est pas le choix que tout le monde veut nécessairement faire. Mais c'est le choix qu'on fait quand on est à l'écoute du Seigneur. On veut entendre de lui, et puis lui, il va nous parler. Hein? « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Donc, j'aimerais que vous puissiez recevoir cet encouragement-là pour vos vies, de vous avancer en pleine eau avec le Seigneur dans les choses que lui va vous montrer, et puis de le faire avec assurance, justement, parce que quand on marche avec le Seigneur, Ça ne marche pas, hein? Ah, là, ça marche? Okay, on va faire le switch. J'aimerais ça terminer ce matin avec une leçon d'abjet qui va nous illustrer un peu justement le message que William Borden a voulu amener en Chine. Et puis ça nous amène au début de la création. Parce qu'au début de la création, si on peut se l'imaginer comme ça, bien évidemment il y avait Dieu. Cette balle-là va représenter Dieu, donc couleur or, parce que Dieu est le Tout-Puissant, Dieu est le propriétaire de toutes choses, Dieu est grand. Donc, cette balle-là va représenter Dieu. Puis celle-là ici, elle représente, c'est quand même aussi une belle couleur, parce qu'elle représente l'homme. Parce qu'au début, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et puis, ça veut dire beaucoup de choses. Entre autres, l'homme avait cette capacité-là de pouvoir communiquer avec Dieu. Les animaux n'ont pas ça, là. Les animaux, on peut dire que les oiseaux chantent les louanges de Dieu, là. Peut-être, là, la création Dieu, la création révèle la beauté de Dieu, mais ils ne sont pas en communication. Mais par contre, l'homme, lui, est écrit à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et puis l'homme est capable aussi de faire des choses comme seulement l'homme peut faire. L'homme est capable de créer des choses, de penser. Il est capable de se poser la question aussi aujourd'hui, c'est quoi le sens de la vie? Quel est le but de mon existence? Et puis l'homme, quand il était créé au départ, évidemment, bien, il n'y avait pas le péché. Et puis l'homme était proche comme ça de Dieu. L'homme était en communion avec Dieu, constante. Et puis la Bible nous dit que Dieu rencontrait l'homme. Et puis Adam et Ève aussi, ils avaient une bonne communion ensemble. Ils n'avaient pas eu de... Tu sais, il y avait peut-être des... s'il y avait des arguments, mais, en tout cas, c'était toujours positif, là. Ils ne s'étaient jamais criés après, ils ne s'étaient jamais insultés, ils ne s'étaient jamais boudés, ils ne s'étaient jamais battus non plus. Là. C'est comme, au début, là, dans le paradis terrestre, la relation de l'homme avec sa femme était parfaite, puis la relation de l'homme avec Dieu était parfaite. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que le diable, l'ennemi de Dieu est venu, et puis là, il a menti. Puis le mensonge, c'était que, ben, si vous mangez de cet arbre-là, vous allez devenir comme Dieu. Et puis l'homme a cru le mensonge du diable. Sauf qu'il n'est pas devenu comme Dieu. Oui, il était un peu comme Dieu dans ce sens que maintenant, il allait décider c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal. Il allait se comporter comme Dieu, sauf qu'il n'allait plus être en communion avec le vrai Dieu. Il n'allait plus non plus avoir cette joie, cette paix qu'il avait expérimentée temps qu'il était en communion avec Dieu. Et puis c'est là qu'est arrivée une grande séparation. Et puis là, je vais avoir besoin de deux volontaires, juste pour tenir mes deux balles ici. Est-ce que je peux avoir deux volontaires? Une volontaire. Est-ce que tu peux venir en avant, s'il te plaît? Ça m'en prendrait un autre volontaire. Toi aussi? Bon, on les applaudit, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce que tu peux tenir cette balle-là? Celle-là représente Dieu. Non, bonjour. On ne s'est pas arrangé, hein? On s'est salué en arrivant, mais on ne s'est pas arrangé, right? Il n'y a pas de truc, hein? Je peux tenir cette balle-là qui représente l'homme. Est-ce que vous pouvez vous approcher juste un peu ici, comme ça? Bon, devant un peu en avant ici, comme ça. Parfait. Non. Maintenant, ici, j'ai cette autre balle-là ici qui, elle, représente donc ce qui s'est passé. Elle représente le péché. Donc, à partir du moment donné où que l'homme s'est éloigné de Dieu, il y a eu des conséquences sérieuses. Cette conséquence-là, c'est que le péché, maintenant, est rentré dans le monde. À partir de ce moment-là, on est né, toute la descendance d'Adam, on est né pécheur. Puis le péché, c'est quelque chose qui vient se placer entre Dieu et les hommes. Et puis pour continuer de bâtir notre illustration, est-ce que tu peux tenir cela ici? Donc on va prendre ici cette corde-là, et puis on va prendre la corde, puis on va premièrement mettre, on va prendre les deux cordes, puis on va premièrement mettre La balle qui représente le péché au milieu. Donc, pas des balles truquées, mais il y a un trou en milieu. Juste pour être sûr. Là. Juste comme ça. Donc, on a la balle qui représente le péché aussi au milieu. Est-ce que tu pourrais mettre ta main gauche comme ça? Main gauche. Comme ça. Parfait. Ta main droite comme ça. OK, on est prêt. Maintenant, pour montrer que le péché, c'est quelque chose qui tellement souvent est incrusté dans nos vies, que même si on aimerait des fois changer certaines habitudes ou attitudes, c'est difficile. Donc, on va attacher la balle ici au milieu, solidement. Donc, est-ce que tu peux me donner une des deux cordes? C'est bon? C'est aussi une des deux? OK. Donc, on attache la balle qui représente le péché au milieu. Tiens, celle-là. Et puis là, on va continuer à bâtir, tu peux me la donner, à bâtir notre illustration. Donc, à votre droite, on a la balle qui représente quoi? Celle-là? L'homme. Et puis l'homme est vraiment formidable. Alors, moi, j'aime ça voyager, là. Et puis j'aime ça voir les belles choses du monde, les beaux bâtiments. Mais ce que je trouve quand même le plus spécial, c'est de rencontrer des gens et puis de les découvrir. L'homme est la création de Dieu, c'est le summum de la création de Dieu. Et puis l'homme a été créé non seulement à l'image de Dieu, mais Dieu même a un plan pour l'homme. Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est incroyable d'imaginer ça quand on pense à la grandeur de l'univers, l'immensité, et puis que l'homme est sur une petite planète, une toute petite planète, comme un grain de sable comparé à l'univers. Et puis l'homme a, pour chacun de nous, chacun d'entre nous un plan. Et puis évidemment, il y a Dieu ici à droite, à ma droite. Et puis vous voyez, c'est quand même spécial. Dieu ici, ou si on parle de l'homme, l'homme n'est pas loin de Dieu. Hein? Il y a juste quelques pouces entre les deux. Et puis, ça, c'est une des raisons qui nous donne l'explication pourquoi il y a tant de gens qui essaient de chercher Dieu. Parce que, premièrement, Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité, qu'il doit y avoir un Dieu, qu'il doit y avoir quelque chose de plus grand. Puis, il y a beaucoup de gens, évidemment, qui, au travers de la religion, ils vont essayer de se rendre à Dieu. Ils vont essayer par leurs bonnes œuvres, en faisant différentes choses, en faisant des jeûnes, en s'abstenant de certaines choses, par la méditation. Les gens essaient de se rendre à Dieu, sauf que, à cause de l'obstacle, ils ne peuvent pas se rendre. Et puis ça, c'est la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a tous péché, et puis que nos péchés ont mis un obstacle entre nous et Dieu, de sorte qu'on ne peut pas voir sa face. Et puis évidemment, cette mauvaise nouvelle-là nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et puis qu'il n'y a pas de juste, il n'y a personne qui est assez bon pour se rendre à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu, puis mon foulard rouge est évidemment rouge, parce que Jésus a versé son sang à la croix du calvaire pour nous. Puis la Bible nous dit, un passage qu'on cite parfois, Jean le Baptiste l'a mentionné, il dit de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc Jésus est venu pour enlever cet obstacle-là. Jésus est venu pour mourir pour les péchés du monde, pour enlever cet obstacle-là, enfin. Cet obstacle-là qui était rentré dans le monde par le mensonge, par la désobéissance, Jésus est venu pour l'enlever. Et puis, quand il était sur la croix, juste avant de mourir, il a dit, « Tout est accompli. » Vous voulez voir qu'est-ce que Jésus a accompli quand il a dit ça? Veux-tu le voir? Oui. Tiens les deux cordes comme il faut, toi aussi, puis tirez chacun de votre bord. On voit ça ici, regardez. Là, tenez les cordes comme il faut. Quand Jésus est mort sur la croix, il a enlevé cet obstacle-là. Mais regardez quand même. Il existe encore cet espace-là entre l'homme et Dieu. Vous voyez? Il y a encore un espace. Pourquoi? Parce que même si Jésus est mort pour les péchés du monde entier, c'est pas assez pour que tout le monde aille au ciel. Quand Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour les péchés du monde, c'est le fait que maintenant Dieu peut nous sauver. Maintenant Dieu peut se tourner vers l'homme et puis dire, viens à moi parce que j'ai enlevé ce qui t'empêchait de venir à moi. Et puis là, maintenant, la responsabilité de l'homme, c'est de se réconcilier avec Dieu. Ça, c'est la décision. Jésus a parlé de la nouvelle naissance. Quand l'homme accepte, quand l'homme regarde ses péchés, puis comprend la condamnation qui vient avec ça, comprend la culpabilité, puis se tourne vers Jésus, mais là, il peut s'approcher de Dieu. Et puis, c'est comme ça que l'homme peut être sauvé. On leur donne une bonne main d'applaudissements. Merci beaucoup. Merci. Ben, j'aimerais juste terminer avec un mot de prière. Et puis, la première prière, ça serait peut-être de donner cette opportunité-là si quelqu'un n'a pas encore accepté ce don gratuit de la vie éternelle qui est en Jésus. J'aimerais que vous puissiez prier dans vos cœurs et puis lui demander par la foi, lui demander quelque chose comme « Seigneur Jésus, j'aimerais que tu puisses pardonner mes péchés. Je voudrais me tourner vers toi et puis trouver cette relation avec toi que tu avais avec l'homme au début. Merci, Seigneur. J'aimerais aussi prier, mon Dieu, pour cette Église et puis que tu puisses, Seigneur, parler au cœur de ceux et celles qui ont été interpellés par ce message d'avancer en pleine eau, peut-être de faire un changement, prendre une nouvelle responsabilité, essayer quelque chose de nouveau ou penser différemment. Peut-être se faire baptiser, peut-être aller vers quelqu'un pour demander pardon. Seigneur, tu sais, Seigneur, tu sais ce qu'on a à faire. Mais on a besoin, Seigneur, de s'avancer en pleine eau. On a besoin de souvent faire un pas qui nous fait peur. Mais toi, tu nous rassures. Comme tu as dit à Pierre, ne crains point. Merci, mon Dieu, de bénir cette assemblée. Merci de leur redonner les choses qu'ils ont perdues, mon Dieu, de remplir cette assemblée, de les diriger, Père. Je te remercie d'avoir eu le privilège de connaître un peu Jean-Sébastien, son épouse, mon Dieu, et cette assemblée. Père, que tu puisses les faire avancer dans ton bon plan parfait, leur donner la paix. Et puis, renouveler les forces, mon Dieu. C'est toi, Seigneur Jésus, qui donne la force à ceux qui sont fatigués. Seigneur, c'est toi qui renouvelle la force comme celle de l'aigle. Merci de les bénir et puis je te rends grâce pour la possibilité d'avoir été ici avec eux aujourd'hui. Merci, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.